Réjouis-toi. Réjouis-toi, c'est ce que j'ai dit. Un enfant du catéchisme qui avait encore les yeux tout embués de larmes. Il avait fondu en larmes en plein cours de caté. Et la catéchisme l'avait amené à mon bureau et dit, il faut que vous le consoliez. Pourquoi un tel chagrin? Il avait eu une mauvaise note à l'école. Et il suffisait de le regarder, de voir son air sérieux, appliqué, pour comprendre que là, c'était vraiment un accident. C'était vraiment totalement inhabituel pour lui. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il a dit, de façon très honnête, il avait mal lu le sujet. Il avait beaucoup travaillé, mais il n'avait pas lu le sujet, et puis il était parti, bille en tête, en plein hors-sujet. Réjouis-toi. Tu viens de faire l'expérience essentielle de l'échec quand il n'est pas dramatique. Essentielle dans la vie. Mieux encore, toute ta vie, tu vas rencontrer des personnes très intelligentes qui n'auront jamais appris ce que tu es en train d'apprendre à bien lire le sujet, à réfléchir avant de disserter. Et je lui ai même dit, tu as 7 ans d'avance sur moi. Moi, j'ai dû attendre la terminale. C'est la terminale. On avait notre prof de philo, je peux lui rendre hommage, s'appelle Sylvia Nagasinski, elle commençait sa carrière, elle écrit depuis des livres très intelligents. Et elle nous avait donné une phrase d'Aristote à commenter, « Tous les hommes désirent naturellement savoir, peu importe le sujet. » Elle nous avait passé ensuite un savon à toute la classe, 30. Aucun d'entre vous, avait-elle dit, aucun d'entre vous ne s'était demandé si c'était vrai. Aucun esprit critique, aucune réflexion. Tu vois, 7 ans plus tard, moi, il était parti apaisé. Lire le sujet, comprendre le problème avant d'apporter une solution. C'est probablement la condition de la participation de la famille chrétienne au développement de la société. C'est le troisième de ces 4 devoirs principaux, selon Jean-Paul II, dans son exhortation Familiaris Consortio, je vous ai proposé pour ces 4 dimanches de l'Avent de les voir successivement. Le premier, c'était la formation d'une communauté de personnes, une communauté de vie et d'amour. Deuxième devoir principal, nous l'avons vu la semaine dernière, le service de la vie. Et donc le troisième, notre participation au développement de la société. Voyez la façon dont Jésus, dans l'Évangile, rassure Jean-Baptiste via ses disciples. Jean-Baptiste est dans sa prison, où il est en proie. On dit très vite, trop vite, au doute. Non, pas au doute. Il est en proie à la tentation. Es-tu celui qui doit venir ou devant nous en attendre un autre? C'est de tentation qu'il s'agit, que pointe l'expression très particulière de Jésus à la fin, en parlant d'occasion de chute. Dans la vie spirituelle, les chutes viennent d'une mauvaise écoute, ou encore plus souvent, de l'écoute des mauvaises personnes. Celles à qui on aurait justement dû dire « chute, tais-toi, silence ». Comme le fait Jésus avec les esprits mauvais. Silence. Il faut imaginer Jean dans sa prison, où il se fait maltraiter, mais surtout moquer par les gardes, aussi bien les gardes que les co-détenus. Alors, il est où ton Messie? Qu'il vienne te sauver. Exactement comme pour Jésus sur la croix. Qu'est-ce qu'il pouvait répondre? Taisez-vous, mais nous savons très bien, y compris pour nous, ce n'est pas toujours possible. Toutes les semaines, je reçois des personnes qui sont ébranlées dans leur foi, qui sont tentées d'abandonner, de quitter l'Église, qui sont tentées d'écouter l'esprit du monde, qui sont surtout tentées de ne plus faire confiance à personne, ce qui n'est pas possible, et donc, en réalité, d'écouter ceux qui ont le plus d'attrait, les séducteurs du monde. Et je leur dis très exactement ce que Jésus dit aux disciples de Jean. Où est-ce que vous voyez l'Esprit-Saint à l'œuvre? Où est-ce que l'Esprit-Saint est à l'œuvre? Regardez! Ma meilleure amie m'a raconté l'expérience qu'elle avait faite quand elle avait 15 ans.
Elle avait hérité de la foi de sa famille. Et normalement, à cet âge, elle s'était demandé, qu'en est-il de cette foi ? Seigneur, c'est vrai ou pas ? Et elle racontait un été entier. Elle était partie en vélo, un été entier. Elle avait demandé au Seigneur de lui dire s'il existait vraiment. Et je vous lis juste un passage de son témoignage. Il m'a répondu, tout est dans l'Écriture sainte. Et elle a même entendu cette phrase, tout y est, tu m'y trouveras. Tout y est, tu m'y trouveras. Et elle poursuit, le Seigneur n'a pas changé depuis, il ne m'a pas dit de le trouver dans l'Église, mais dans la Bible, dans sa parole. Et plus exactement, ça c'est moi qui prends la suite, dans la Bible, dans l'Église, la parole de Dieu écoutée ensemble, ce que nous faisons en cet instant, ce que nous venons faire, avec des personnes, avec toute la diversité que nous représentons, des personnes les unes à côté des autres qui n'ont pas nécessairement les mêmes idées, les mêmes opinions, les mêmes choix de vie, pas les mêmes goûts, mais le même désir de Dieu. La même volonté de placer l'amour, la vérité au centre, la même adoration de la Trinité Sainte, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, et par voie de conséquence, parce qu'on ne peut pas détacher les deux, la même volonté de respect de la personne humaine, de toute personne, dans sa liberté intérieure. La famille, dit Jean-Paul II, c'est le berceau et le moyen le plus efficace pour humaniser et personnaliser la société, pour l'humaniser. La famille possède et irradie des énergies extraordinaires, capables d'arracher l'homme à l'anonymat, de l'éveiller à la conscience de sa dignité personnelle, de le revêtir d'une profonde humanité et de l'introduire activement avec son unicité et sa singularité dans le tissu de la société. Voilà le programme de vie d'une famille, d'éducation des parents. Le plus grand malentendu du christianisme, c'est d'imaginer qu'on puisse devenir chrétien sans être d'abord réellement humain. Ce n'est pas être chrétien qui rend humain, c'est le contraire. La grâce des sacrements, la vie chrétienne, la vie de prière, vient perfectionner, accomplir ce que nous avons d'humain. Quand nous disons d'une personne qu'elle fait preuve d'humanité, d'un comportement qu'il est humain ou, le plus souvent d'ailleurs, à contrario, que c'est inhumain. Qu'est-ce que nous voulons dire ? Qu'est-ce que nous désignons ? Je vous propose, pas seulement d'y réfléchir, d'en discuter entre vous, en famille, entre amis, de voir ce que cela contient, ce que cela suppose de sensibilité, d'attention à l'autre, de sérieux, de réalisme, de conviction et d'engagement. Parce qu'être humain, c'est forcément être aussi citoyen, au meilleur sens du terme, de participer à la bonne marche de la société, du lieu où on vit. La question de Jésus aux foules, une fois que les disciples sont partis, quand il s'adresse aux foules, « Qu'êtes-vous allé regarder au désert ? Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» Cette question, elle porte en elle-même un préalable. Pourquoi êtes-vous allé le voir ? Pourquoi êtes-vous allé le voir ? Vous pensez que c'est uniquement par curiosité, pour faire comme les autres ? Pourquoi êtes-vous allé le voir ? Sinon parce qu'il vous accueillait, il vous écoutait, il vous parlait de vous autant qu'il vous parlait de moi et du Père. Il vous a parlé de moi, dit Jésus, dit le Christ, et pour cela, il vous a nécessairement parlé de vous. Il a fait attention à vous et vous avez eu cette joie d'être accueilli, écouté, respecté, considéré, reconnu. Cette joie, c'est la clé d'une vie heureuse en famille comme en société. La participation de la famille chrétienne au développement de la société pourrait se résumer à ça. Donner à chacun cette joie d'exister.